Europe 1.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddei.
Bonjour, bon dimanche. La France vient de mettre au point l'IRM la plus puissante du monde. Le physicien Alexandre Vigneault qui a travaillé dessus est mon premier invité ce matin. Je recevrai ensuite Mickaël Darmon qui publie un livre sur les rapports entre le Vatican et l'État d'Israël et l'historien Olivier Grenouillot sur la révolution néolithique. Le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, vient donc de dévoiler Isult, l'IRM la plus puissante du monde, une prouesse française donc capable de restituer des images 10 fois plus précises que les IRM actuels. Alexandre Vigneault, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes physicien, directeur de recherche au CEA de Paris-Saclay et vous dirigez le laboratoire métrique qui développe des méthodes et du matériel d'IRM à très haut champ et à champ extrême pour cartographier le cerveau à des résolutions sans précédent. Vous avez suivi toute l'installation d'Isult et vous avez été l'un des chercheurs qui ont mené les toutes premières études sur l'homme. Alors en quoi Isult est-elle plus puissante? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
Alors oui, bien sûr. Isult, c'est l'IRM avec le champ magnétique le plus puissant. L'IRM, c'est un appareil qui fait ses images grâce à l'intensité du champ magnétique. Plus il est intense, plus on aura des images fines. Donc, l'idée, c'était vraiment de réaliser cet exploit parce que ça en étant technologique. Et donc, c'est ce qu'on s'est, on a essayé de faire pendant les 20 dernières années.
Oui, parce que ça a pris 20 ans, hein. Isult, c'est une IRM à 11,7 teslas. La tesla, c'est l'unité de mesure du champ magnétique. Alors, la plus grosse IRM de recherche jusque-là, c'était 7 teslas. Et les IRM hospitaliers auxquels nous avons affaire, c'est combien? 3 teslas?
En règle générale, c'est 1,5 tesla et il y a un certain nombre de 3 Tesla. C'est à peu près 40% des IRM. C'est pas négligeable. 7 Tesla, il n'y en a que 3 en France. Nous en avons l'une d'elles, d'ailleurs, au CEA.
Au CEA. Donc là, on est à 11,7 Tesla. Alors, la définition est, paraît-il, équivalente à 1/1000 du volume d'une goutte d'eau. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, sans doute. Il faudrait savoir quelle est la taille de la goutte d'eau. Mais on peut aussi dire que les premières images que nous avons publiées, chaque petit pixel était fait grâce à un volume de 40 milliardièmes de litres. Ça vous aide?
Oui, ça m'aide un peu. Mais appliqué au cerveau humain, ça va nous permettre d'obtenir des informations sur des neurones qui jusqu'ici restaient invisibles.
Alors, il reste invisible, y compris à la résolution que l'on a atteint. Oui. On peut dire qu'à la résolution dont nous parlions, on a encore quelques milliers de neurones dans chacun des carrés de l'image.
Ouais.
Donc... ça n'est qu'une étape, si on peut dire. Néanmoins, c'en est une belle parce que on a cette envie, en fait, d'avoir la possibilité de regarder dans les couches du cortex, parce que c'est déjà intéressant de voir comment fonctionnent les paquets de neurones dans les couches du cortex.
Mais comment ça fonctionne, tous ces teslas qui nous traversent le cerveau quand on fait une IRM avec Isult? C'est vous qui avez, vous avez fait partie de ceux qui ont piloté les essais sur les êtres humains. Vous avez trouvé 20 volontaires. Il y avait un petit danger quand même.
Je ne pense pas, sincèrement. Disons qu'il y avait la volonté à la fois du CEA, mais aussi des autorités de santé, de se convaincre qu'il n'y avait aucun problème. Et donc, l'étude que nous avons menée était avant tout pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème. Donc, chaque volontaire a passé un certain nombre de tests. On a vérifié un certain nombre de paramètres dans des échantillons sanguins. On a fait beaucoup, beaucoup de choses. On a étudié aussi l'effet du stress. Certains sont passés dans le même IRM, mais sans champ magnétique, juste pour voir...
Ah oui, c'était l'effet placebo.
Exactement.
Donc.
Exactement, voilà. Exactement. Donc tout ça pour se convaincre vraiment qu'il n'y avait pas de problème.
Donc on peut tous y aller, il n'y a pas de problème. Non. Mais on ne va pas y aller demain parce que ça a coûté quand même très très cher cet instrument, 70 millions d'euros je crois.
Tout à fait. De
nombreuses années. Ce n'est pas demain qu'on aura le même à l'hôpital. Donc il va nous servir à quoi? Je dis « il », mais il s'appelle « Iseut ».
Oui, alors évidemment, il ne sera pas disponible dans tous les hôpitaux rapidement, ça c'est certain. L'idée, c'est vraiment d'alimenter la connaissance sur le cerveau malade et aussi normal, hein, puisqu'on s'intéresse aussi au fonctionnement normal du cerveau. Et donc, pour ce qui est de la maladie, d'alimenter en information sur la physiopathologie de la maladie, et possiblement, si on a de bons biomarqueurs, de pouvoir utiliser cette machine pour vérifier l'efficacité de médicaments de manière
notamment sur les maladies dégénératives par exemple, parce que c'est à elles qu'on pense dès l'instant où on va vers le cerveau. On a une population qui vieillit en France et on est tous un peu hantés par ça.
Absolument, donc évidemment c'est la première chose qui va nous intéresser probablement. La maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, on a déjà des idées à ce niveau. La résolution des images, la finesse des images devrait nous permettre en fait d'aller chercher des détails qui sont intéressants dans certaines régions. Par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, c'est dans l'hippocampe qui a de l'intérêt pour aller chercher les fameux biomarqueurs dont on parlait.
Que ça veut dire, pardon de vous interrompre Alexandre Vignaud, mais est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir détecter la mort de certaines neurones, par exemple, longtemps avant l'apparition de la maladie de Parkinson ou de la maladie d'Alzheimer?
Alors, je suis pas biologiste ni médecin, mais
moi non plus, malheureusement.
Donc, je vais pas trop m'avancer, mais on va essayer de voir des variations de volume, des changements de signaux dans les images, qui elles probablement seront reliées effectivement à des changements dans les processus et peut-être même dans la mort de certains neurones.
Et est-ce que c'est des biologistes qui vont faire ça ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va s'en charger? Parce qu'il paraît que l'intelligence artificielle est meilleure que nous pour regarder des radios.
Ah oui, alors là, je pense que ça ne sera pas le cas parce que les premiers médecins qui ont pu voir les images que l'on a produites, il y a tellement de nouveaux détails pour eux parce que d'habitude, ils n'étaient pas apparents, qu'il va y avoir en premier lieu à réapprendre peut-être à les lire.
Hein, oui, donc longtemps avant qu'il y ait suffisamment de données pour que les intelligences artificielles s'en emparent.
Exactement.
Donc d'abord les humains, ce qui n'est pas plus mal. Ça va nous permettre aussi d'en savoir plus sur le fonctionnement du cerveau, même quand il fonctionne bien, j'imagine.
Exactement. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse plus particulièrement dans notre institut, parce que il y a beaucoup de spécialistes, de neuroscientifiques qui sont spécialisés dans ce genre de choses. Et donc, des processus aussi simples que le processus de la lecture, du calcul, sont des processus qui sont finalement assez mal connus encore. Et pour lesquels on peut certainement encore améliorer la connaissance, en particulier, comme je le disais tout à l'heure, dans ce qui peut se passer au niveau non seulement d'une région du cerveau, mais des couches dans la région en question.
Iseut, donc l'IRM la plus puissante du monde, c'est un exploit du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Selon le classement de l'Office européen des brevets, le CEA, c'est le deuxième plus gros déposant de brevets en France, derrière Valeo, et l'organisme de recherche le plus innovant d'Europe. Vous le confirmez?
Ah oui, vous avez de bonnes informations. D'ailleurs, au travers de ce projet, on a, je l'espère, participé à l'amélioration de ces chiffres pour le CEA, parce qu'il y a eu quelques brevets qui ont été posés pendant le développement de l'aimant par certains de mes collègues, et puis de notre côté sur les développements de méthodes d'acquisition d'images.
Merci Alexandre Vignaud. Vous allez continuer de travailler sur Iseut ou vous allez partir développer d'autres projets ?
Non, je vais continuer parce que en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire, en particulier pour rendre la machine totalement utilisable par nos collègues médecins et neuroscientifiques. Donc, on a plein de choses encore à faire.
Merci en tout cas d'être venu dans cette arrivée demain pour nous parler de cet exploit français dont on peut tous être fiers.
Oui, j'espère, il faut l'être. Merci monsieur.
Et l'on va s'intéresser maintenant à l'histoire secrète des relations entre l'État du Vatican et l'État d'Israël avec Mickaël Darmon.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Mickaël Darmon, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste, vous l'avez été à TF1, à France 2, à Europe 1. Et aujourd'hui, vous publiez Le Pape et la Matriarche chez Passé Composé. C'est sous-titré Histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican. Mais il s'agit d'abord du récit d'une rencontre peu connue entre Paul VI et Golda Meir, première ministre de l'État d'Israël. C'est elle la matriarche. Alors pourquoi cette entrevue du 16 janvier 1973 revêt-elle une telle importance à vos yeux ?
Et aussi aux yeux d'ailleurs des relations entre ces deux États, parce que ce sont effectivement deux dirigeants au sommet qui se rencontrent pour la première fois. C'est d'abord une rencontre inédite sur le plan historique. C'est la première fois qu'un pape reçoit en audience au Vatican un dirigeant de l'État d'Israël. Il se trouve que c'est Golda Meir. Ce sont deux dirigeants qui sont au sommet, on va dire, de leur notoriété, parce que c'était quand même deux rockstars du XXe siècle.
Est juste avant la guerre du Kippour.
On est neuf mois. On est le 16 janvier 73. Personne ne sait encore, effectivement, et encore moins en Israël, à quelle manière la vie va basculer dans le pays. Mais là, il y a un enjeu pour Golda Meir qui est de continuer à essayer de briser l'isolement diplomatique donc d'Israël. C'est un travail qu'elle a mené régulièrement depuis qu'elle est dans les ministères puis à la tête du gouvernement, notamment en Afrique, et réussir à pouvoir rencontrer celui qui dirige en fait les consciences de plus d'un milliard d'êtres humains, c'est un enjeu considérable pour ce petit État qui est fasciné également par le Vatican. L'État d'Israël et le Vatican se fascinent mutuellement parce que ce sont deux petits États timbre-poste, on va dire, à l'échelle géographique, mais qui ont une aura d'autorité morale qui dépasse largement leurs frontières, qui ont tous les deux le culte du secret et qui sont les dépositaires de la matrice de l'histoire judéo-chrétienne. Et voilà qu'ils n'ont pas de relations diplomatiques. Et c'est ce que vient, entre autres, chercher Golda Meir pendant cette audience qui va être une disputation au sommet de l'histoire.
Vous dites également, pour ce qui fait qu'ils se ressemblent, l'État d'Israël et le Vatican, c'est qu'ils ont d'excellents services de renseignement.
Ah oui, le Vatican, c'est l'un des plus grands et des plus importants services de renseignement au monde. Parce qu'imaginez-vous que chaque prêtre au fin fond de la forêt amazonienne envoie ce qui se passe autour de lui à sa hiérarchie, qui transmet à la hiérarchie, et ça arrive au Vatican. Et ça, les Israéliens en sont extrêmement conscients, parce qu'évidemment, ils sont aussi très férus et ont besoin et ont développé un service de renseignement qu'on connaît, et ils sont fascinés par cela. Et il y a cet enjeu de la guerre froide. Paul VI est le pape de la guerre froide. Le Vatican est un terrain de bataille en coulisses féroce entre le KGB et la CIA, parce qu'il fallait au lendemain de la guerre juguler, repousser la possibilité que les communistes prennent le pouvoir en Italie. Et bien évidemment, le Mossad regarde ça avec beaucoup d'intérêt et se dit il y a un moyen, il faut trouver une place. Et c'est une des raisons également pour lesquelles Golda Meir est contente et enthousiaste à l'idée donc d'arriver au Vatican devant Paul VI.
Vous racontez, Mickaël Darmon, que dès 1904, Théodore Herzl, le fondateur du mouvement sioniste, a rencontré le pape Pie X. Mais qu'est-ce qui les opposait à l'époque ?
La théologie, le peuple déicide, le dogme qui posait comme, on va dire, structurant et au cœur du catéchisme, le fait que c'était les Juifs qui étaient donc responsables de la mort de Jésus, vendu aux Romains. Et de ce point de vue-là, c'est à cause de cela. D'ailleurs, le pape dit à ce moment-là à Théodore Herzl, les Juifs n'ont pas voulu reconnaître Jésus, on ne peut pas reconnaître votre projet sioniste. Et s'installe comme ça une tradition de rencontres, souvent d'ailleurs abrasives, entre les papes et les dirigeants du mouvement sioniste. Et puis arrive Jean XXIII et Paul VI. Et c'est le grand chantier de Vatican II, la grande révolution théologique et doctrinale qui efface, qui élimine du catéchisme, de la doctrine et du discours la notion de peuple déicide. Et c'est un véritable, je dirais, une grande révolution et une bascule complète. À partir de là, la politique peut peut-être reprendre ses droits. C'est ce que, entre autres, Golda Meir vient faire valoir auprès de Paul VI.
La réconciliation entre les chrétiens et les juifs, elle a été scellée effectivement en 1965, hein, précisément, par Vatican II. Le peuple juif n'était plus un peuple déicide. Alors effectivement, c'est ce qui va permettre cette rencontre entre Golda Meir et Paul VI. Mais sur quoi tombent-ils d'accord et sur quoi sont-ils en désaccord ?
Alors, ils sont désaccord d'emblée sur justement la politique de l'État d'Israël vis-à-vis des Palestiniens, vis-à-vis du monde arabe. Nous sommes après 67, nous sommes après la guerre des Kippous des six jours, qui a vu comment, de manière extrêmement rapide, cette victoire éclair de la guerre des six jours, qui a montré au monde les prouesses de ce jeune État d'Israël, mais avec une conséquence, c'est qu'il y a l'occupation par l'armée israélienne dans les territoires de Cisjordanie et de Gaza, et en particulier le contrôle des lieux saints, qui jusqu'à présent étaient sous le contrôle de la Jordanie, et qui depuis la guerre 67 passe sous le contrôle d'Israël, notamment avec la vieille ville de Jérusalem, bien sûr, et tous les lieux saints. Et là, ça change la donne, parce que le Vatican est obligé d'avoir des relations à tout le moins technique pour la gestion des lieux saints, sans reconnaître politiquement. Donc d'emblée, il y a ce reproche qui est adressé par Paul VI à Golda Meir, qui elle n'avait pas sa langue dans sa poche, qui tout de suite réplique en disant, vous savez, moi je suis une enfant des pogroms à Kiev, c'est pas vous qui allez me donner des leçons. Et ça part comme ça pendant un bon moment, et après ça s'apaise, et tous les deux conviennent, et le disent pratiquement d'ailleurs de manière pratiquement ensemble, que cette rencontre a un caractère historique.
Mais c'est seulement à partir de 1993, donc 20 ans plus tard, qu'Israël et le Vatican commenceront à entretenir des relations officielles en s'échangeant des ambassadeurs. Pourquoi si tard ?
Parce que d'abord, l'agenda du Vatican, c'est l'éternité. Hein. Donc,
elle l'a dit d'ailleurs, elle a dit ça. L'horloge du Vatican n'est pas la même que celle des autres.
Parce qu'effectivement, le pape lui répond, elle lui dit « reconnaissez l'État d'Israël ». Il lui dit « ça n'est pas encore le temps, ça n'est pas encore le moment ». Et elle dit « voilà, effectivement, le temps du Vatican n'est pas le temps de l'histoire du monde ». Mais effectivement, ça prend 20 ans, c'est-à-dire au fond quelques minutes, le temps que des relations très particulières, officieuses, secrètes, se nouent entre le Vatican et l'État d'Israël, avec des services rendus, des manières de coopérer sur des tentatives d'attentats que le Mossad désigne, prévient en disant le pape Paul VI est menacé, donc il y a des retours d'ascenseur, et arrive Jean-Paul II. Arrive d'abord Jean-Paul Ier. Il faut savoir que Jean-Paul Ier, dans son programme pontifical, avait l'intention de reconnaître politiquement l'État d'Israël. Il était 33 jours au pouvoir. Jean-Paul II avait un agenda géopolitique qui était philo-sémite. Lui, il décide effectivement de reconnaître officiellement l'État d'Israël.
On fait une pause, Michaël Darmon, et vous allez nous raconter ça. Michaël Darmon publie donc « Le pape et la matriarche chez Passé Composé ». C'est l'histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican. Vous nous parliez du pape Jean-Paul II, le pape polonais. Et c'est une ironie que ce soit un pape polonais donc qui ait permis enfin qu'il y ait des relations officielles entre Israël et le Vatican.
Oui, l'adage « rien ne se passe comme prévu », c'est encore vérifié aussi sur ce terrain. C'est vrai que lorsqu'il est nommé, il y a un scepticisme chez les Israéliens, au sein de l'exécutif israélien, au sein des services de renseignement, en disant « c'est pas avec lui, étant donné le passé des Polonais et la Shoah, que l'on va arriver à quelque chose ». Or, en fait, c'est une erreur, parce qu'en réalité, dans son histoire, Paul VI, l'ancien donc cardinal Wojtyla, était très philosémite, avait eu des relations avec la communauté juive, et il arrive aussi avec, on le sait hein, maintenant, bien sûr, avec un agenda géopolitique. Il est le pape de la fin de la guerre froide. Tous les papes ont été traversés par les grandes secousses de l'histoire. Paul VI, c'était le fascisme. Jean-Paul II, c'était la fin de la guerre froide. François, c'est entre autres Daesh, l'État islamique et le terrorisme. Et donc, en fait, lui, c'est la fin de la guerre froide et il y participe, comme on sait. Dans ce contexte-là, renouer des relations politique, diplomatique avec l'État d'Israël lui semble important, et donc il désigne une équipe de négociateurs chercheurs plus ou moins discrets que j'ai retrouvés, qui sont encore vivants pour la plupart au Vatican, et également du côté de l'État d'Israël, il y a des négociateurs, des artisans qui viennent, qui commencent à parler officieusement dès 92 avec les prélats du Vatican pour arriver à un accord, l'accord fondamental de 1993. Et le premier échange d'ambassadeurs en 1994, ça fait 30 ans.
Alors, on se dit que rien n'oppose a priori le Vatican et l'État d'Israël à partir du moment où la question du peuple déicide a été réglée par Vatican II. Néanmoins, il y a le statut de Jérusalem, qui est une ville sainte pour les Juifs, pour les chrétiens, pour les musulmans. On se souvient que le Vatican a signé en 2000, un accord avec l'OLP sur l'avenir de la ville, réclamant un statut spécial internationalement garanti, ainsi que la liberté d'accès et de culte, et qui déclare moralement et juridiquement inacceptable toute décision unilatérale modifiant son caractère spécifique et son statut.
Absolument.
Donc là,
alors ce sont des divergences, bien sûr, ce sont des divergences. Bien évidemment, la gestion des lieux saints, la ville de Jérusalem pour le Vatican, c'est très important. Mais bien sûr, c'est quand même, ils sont voisins de palier de l'histoire avec Israël, donc c'est sûr. Mais quand on regarde précisément aussi effectivement les arguments et les mots, le fait que le Vatican plaide pour une cité à Jérusalem internationalement reconnue et non pas une cité internationale, c'est là que ça discute depuis des années. Vous voyez,
c'est ça la diplomatie, c'est une question de mots.
La diplomatie, l'exégèse et le Talmud, vous voyez ce que ça donne comme capacité de pouvoir jouer avec les mots et les lettres. Donc ça, c'est effectivement un moment important. Et puis, vous avez aussi l'approche, on va dire, structurelle de la part de la chrétienté chez les catholiques, où on est spontanément, on va dire, du côté des faibles, du côté des opprimés, du côté de ceux qui n'ont pas la force. Et dans cette région, ce sont les Palestiniens. Il y a beaucoup de Palestiniens chrétiens qui souffrent à la fois des affres de l'occupation pendant des années, mais également de l'islamisme, et qui à la fois disent à l'État d'Israël et disent au Vatican, aux autorités ecclésiastiques, on est coincé. Donc, de ce point de vue-là, il y a ce soutien aussi naturel aux Palestiniens. Et donc, il y a des zones de friction assez régulières avec l'État d'Israël. Mais récemment, là, le pape François a pris plusieurs fois des positions depuis les massacres du 7 octobre. Et il condamne régulièrement le Hamas, tout en disant il faut un cessez-le-feu, il faut que les otages soient libérés. Donc, on a aujourd'hui une position, je dirais, équilibrée, entre guillemets, en tout cas, qui prend en compte l'ensemble des souffrances humaines de la région.
Mais vous dites dans votre livre, Michael Darmon, que le Vatican a cessé de préconiser la solution des deux États pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. Alors, qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui?
Alors ça, c'est une des découvertes, effectivement, je prends conscience de cette découverte et de cette évolution dans les couloirs du Vatican durant l'enquête pour ce livre, où des proches du pape François me disent en fait la solution à deux États, elle est abandonnée parce que le fait israélien étant tellement maintenant ancré, on ne peut pas arriver à cette dimension. En revanche, il faut travailler sur l'égalité des droits. Ce qui provoquera d'autres débats, bien sûr. Mais cette notion de deux États est considérée au Vatican comme étant obsolète. On s'aperçoit et on voit que c'est encore un mantra diplomatique dans les chancelleries. Mais au Vatican, on considère qu'elle n'est plus viable et qu'il faudra être créatif et évoluer vers une autre forme d'égalité, de manière à pouvoir un jour trouver l'apaisement.
De type confédération, je ne sais pas,
il faudra être... Vous savez, après les accords d'Oslo, il y avait beaucoup de créativité qui était à l'œuvre. On avait aussi beaucoup réfléchi, à la fois du côté des Israéliens et des Palestiniens, sur le modèle de Jérusalem calqué sur celui de Bruxelles. Qui permet de pouvoir gérer plusieurs types de statuts en même temps. Et il y avait une volonté. En fait, on s'apercevait que lorsqu'il y avait une volonté de trouver un chemin, eh bien on avait envie d'y arriver. Malheureusement, c'est une fois de plus la tragédie des processus de paix à œuvrer dans cette région. On ne sait pas encore pour combien de temps.
C'est un sujet peu connu, Michael Darmon, hein, les relations entre l'État du Vatican et l'État d'Israël. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné quand vous êtes plongé dans cette enquête? Qu'est-ce que vous avez découvert de plus étonnant?
D'abord, la pérennité et la puissance de ce texte Nostra Aetate qui a posé la fin du dogme du peuple déicide, qui s'est transmis de pape en pape, je dirais, sans coup férir, avec des moments extrêmement forts. Encore, on le voit aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui a vraiment structuré, qui structure aujourd'hui le dialogue judéo-chrétien, qui malgré toutes les vicissitudes existe et est puissant et peut-être justement vecteur d'espoir. L'autre chose qui m'a beaucoup étonné, c'est de revisiter le pontificat de Paul VI. En réalité, c'est lui le premier pape moderne. C'est lui qui a posé les jalons, les canons du pèlerin planétaire. C'est lui le premier qui monte dans un avion de toute l'histoire. Jamais les papes n'avaient pris un avion.
C'est lui qui commence à voyager.
Et c'est lui qui commence à voyager. C'est lui qui commence à être effectivement le pèlerin planétaire. Autant de catégories, de modes de fonctionnement que Jean-Paul II reprendra avec son charisme. Mais c'est lui qui a porté ça, qui a porter cette révolution, dans l'histoire entre ces deux peuples.
Merci Michael Darmon. Merci. Le pape et la matriarche, c'est paru chez Passé Composé. Et l'on a maintenant rendez-vous avec un historien, c'est Olivier Grenouillot qui sort une nouvelle collection, La bibliothèque à remonter le temps.
Europe 1.
Et n'oubliez pas, Culture Média, animé par Thomas Hill, c'est du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h sur Europe 1. Et lundi, Thomas reçoit Bernard-Henri Lévy pour son livre Solitude d'Israël aux éditions Grasset.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Olivier Grenouillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et vous dirigez aux éditions du Cerf une nouvelle collection, La bibliothèque à remonter le temps. C'est à destination des adolescents au départ. Hein. Pourquoi avez-vous envie de faire une collection pour les adolescents ?
Bien, tout d'abord parce que je souhaitais donner à lire à mes enfants des livres qui les prennent au sérieux, qui soient ni ludiques ni romancés et qui ne leur disent pas finalement ce qu'ils doivent penser, mais des livres qui leur donnent matière à réflexion. Et je cherchais finalement et je n'ai pas trouvé. Oui, il y a beaucoup de choses pour les petits de 6 à 10 ans.
Vous parlez des livres d'histoire.
Voilà, livres d'histoire. Hein, il y a beaucoup de choses, mais c'est aussi entre le ludique et le scolaire. Et puis après, pour les adolescents et les adultes, on a soit des ouvrages, je dirais, un peu pointus pour ceux qui s'intéressent déjà à un sujet, soit des livres d'histoire un peu romancés. Mais l'entre-deux, l'histoire pour tous, je n'ai pas trouvé. Et ça, c'est le constat. Et puis, j'avais un désir depuis toujours d'écrire pour mes enfants. Et donc, je me suis dit, voilà, je n'ai pas trouvé ce que je voulais pour eux. Eh bien, je vais essayer de l'écrire pour eux. Voilà. Alors, et c'est le début de la collection.
Vous avez écrit le livre consacré au néolithique. On va en parler, bien entendu, parce que c'est une période qui me passionne. Mais il y a aussi bien les Vikings. Sont des sujets. Il y a des sujets de prédilection pour les adolescents, j'ai l'impression.
Alors, c'est l'histoire pour tous, c'est tous les champs de l'histoire. Donc, les quatre premiers, c'est le néolithique de Gaulle, les Vikings et puis les dieux de l'Égypte antique. Mais on aura ensuite aussi bien les Indiens d'Amérique que la guerre froide ou les empires d'Afrique médiévale ou les samouraïs.
Ça m'a rappelé la collection Mythes et légendes que je lisais assidûment quand j'étais adolescent moi-même. Mm-hmm. Et il y avait les contes et légendes à la fois de la Rome antique, de la Grèce, des Indiens d'Amérique, des Vikings. De la même manière, il n'y avait pas encore le néolithique parce qu'on ne s'y intéressait pas à ce moment-là. Mais j'ai l'impression toujours que ce sont les mêmes sujets qui passionnent les adolescents.
Oui, mais j'insiste, hein, cette bibliothèque a remonté le temps, en gros, c'est de 14 à 99 ans. Parce qu'une fois que le premier prototype a été écrit, on l'a fait lire à des adultes, à des professeurs notamment, qui nous ont dit, écoutez, ça me convient tout à fait. Et donc, initialement, c'est pensé à partir de 14 ans, et en fait, c'est pour tous à partir de 14 ans.
Alors, c'est vrai que le livre que vous avez écrit sur le néolithique, qui est une période passionnante, hein, sur laquelle on en apprend de plus en plus, il peut intéresser tout le monde. En tout cas, moi, il m'a passionné. Longtemps, les livres d'histoire à l'école passaient directement de l'âge des cavernes au village gaulois. On faisait l'impasse sur 10 000 ans, hein, qui ont pourtant été décisifs. C'est ça, le néolithique.
Oui, décisif, parce que l'homme invente l'élevage, l'agriculture, bien sûr. L'homme se sédentarise, il invente aussi la roue, la poterie, la pierre poulie. C'est l'époque des premières nécropoles, des premiers temples. Bref, l'homme entre dans l'histoire avant même l'invention de l'écriture et c'est passionnant. Et ce livre illustre finalement ce que l'on souhaite dans la collection, à savoir des livres qui... Il y a une ambition intellectuelle, si vous voulez. Des livres qui donnent à savoir, on a l'essentiel sur le néolithique, des livres qui donnent aussi à comprendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'enfile pas simplement des faits comme des perles sur un collier, mais on est là pour finalement essayer de donner du sens aux choses. Et pour le néolithique, la grande question qui se pose, c'est cette entrée finalement dans l'histoire avant l'écriture, se fait-elle pour le plus grand bien de l'humanité, puisque l'homme, grâce à tout cela, l'élevage, l'agriculture, il apprend à produire ses propres ressources, il devient indépendant. Ou est-ce que l'homme entre dans l'histoire pour son malheur, puisqu'il commence à maîtriser la nature et après, plus tard, à la détruire? Voilà la grande question. Et chaque ouvrage, je dirais, aborde une grande question. C'est une histoire à problème où il y a des questions à résoudre. Voilà.
Mais cette question, vous ne pouvez pas la résoudre, puisqu'on se la pose encore aujourd'hui, enfin plus aujourd'hui que jamais d'ailleurs.
Alors on ne peut pas tout à fait la résoudre, et dans le chapitre 9, et comme dans chaque ouvrage, le dernier chapitre du livre est consacré à une résonance, si vous voulez, entre passé et présent. Une fois qu'on a vu les faits, qu'on a compris, on peut mettre en perspective. Et dans ce chapitre 9, pour le néolithique, on voit finalement que notre façon de voir cette période a changé en fonction de la manière de voir le progrès. Jusqu'aux années 1970, à peu près, le progrès, c'était merveilleux. Et donc, le néolithique était perçu comme le moment où des ancêtres chasseurs-cueilleurs un peu sauvages entraient dans la civilisation. Et puis, à partir des années 70, le progrès étant... d'ailleurs, on se demande si le progrès est vraiment irréversible. Et puis, on se demande, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Et on se met à critiquer le progrès. Et à ce moment-là, on se met à critiquer les hommes du néolithique et à idéaliser les chasseurs-cueilleurs d'avant qui auraient vécu d'amour et d'eau fraîche.
Voilà. Et les hommes du néolithique étant les premiers responsables du réchauffement climatique. C'est un peu aussi comme ça qu'on les voit aujourd'hui.
C'est comme ça qu'on peut les qualifier, ou ils seraient responsables finalement de la surcharge pondérale de beaucoup de monde aujourd'hui, ce qui évidemment est tout à fait faux. Mais vous voyez, dans chaque ouvrage de collection, le dernier chapitre fait un rapport entre le passé et le présent. Voilà.
On continue de parler de la révolution du néolithique avec Olivier Grenouillot, juste après une pause. Nous sommes ce matin avec l'historien Olivier Grenouillot qui sort une nouvelle collection, La bibliothèque a remonté le temps, aux éditions du CERF, à destination des adolescents au départ, mais comme il s'agit de livres clairs et sérieux, ça intéresse tout le monde. Votre premier livre, celui que vous avez écrit, Olivier Grenouillot, concerne le néolithique. Il y a une question qu'on peut se poser, et vous la posez dans ce livre, c'est pourquoi à ce moment-là? Parce que en relativement peu de temps, tout change au néolithique, alors que rien n'a changé, ou presque, auparavant.
Alors, pas tout à fait. En relativement peu de temps, il est vrai, mais suivant les régions, différentes régions du monde, les principales inventions du néolithique, l'agriculture et l'élevage, ça prend entre 1000 et 5000 ans. Et donc, à l'échelle des hommes de l'époque, on ne s'aperçoit pas véritablement des changements. Par contre, ces petits pas pour les hommes de l'époque sont un grand pas pour l'humanité, puisque là, ça entraîne une accumulation d'inventions et on entre dans une autre époque.
Vous dites que ça se passe lentement, 30 à 50 kilomètres par génération, en fait.
Là, c'est pour
l'agriculture et l'élevage.
C'est pour l'avancée, finalement, de la néolithisation en Europe. Voilà, à peu près, oui, 30 kilomètres par génération.
Oui, parce que ça a débuté au Proche-Orient, en Chine aussi. Hein, on invente l'agriculture, on invente l'élevage et c'est importé en Europe.
Tout à fait. Le néolithique est importé en Europe, soit donc par l'Est, par les Balkans, soit par la Méditerranée, ou bien par l'Afrique du Nord et à nouveau la Méditerranée. Et la France est à la jonction de ces deux courants, finalement. Hein. Et donc, ces inventions arrivent de l'extérieur en Europe, mais une fois qu'elles sont en Europe, je dirais que la rapidité de l'évolution est assez remarquable, beaucoup plus même que dans tous les autres continents. Et à la fin de l'époque néolithique, l'Europe devient même un foyer indépendant d'invention, avec l'invention notamment
de la
roue, des premiers chariots et de la métallurgie. Oui.
Bien sûr. Mais vous ne m'avez pas dit pourquoi à ce moment-là, pendant des milliers, des centaines de milliers d'années, on a l'impression que rien n'a bougé vraiment, et puis tout à coup, tout se met à bouger.
Alors, des choses ont commencé à bouger dans la petite période qui précède le mésolithique, entre le paléolithique et le néolithique, où on invente le propulseur, l'aiguille à chat et puis des grattoirs, des microlithes.
On commence à coudre ses vêtements, effectivement.
Voilà. Mais c'est vrai que pendant 30 000 ans, on n'invente rien d'autre. Et puis après, il y a beaucoup plus d'inventions. Et ces inventions, finalement, encore une fois, sont cumulatives. Pourquoi ? Les historiens, les préhistoriens ne sont pas tous d'accord. Certains pensent que c'est l'homme qui déjà, finalement, a choisi. Par exemple, le nombre des hommes aurait augmenté, il aurait fallu trouver de quoi les nourrir. Mais l'explication la plus probable, c'est le changement du climat. À partir de l'Holocène, 12 000 ans avant aujourd'hui, le climat se réchauffe et donc, dans certaines régions du monde, les conditions sont plus favorables pour que des évolutions se mettent en place. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas immédiat. Par exemple, on a dans plusieurs régions du monde des chasseurs-cueilleurs qui connaissent la poterie, alors que dans d'autres régions du monde, touchées par la néolithisation, on peut inventer l'élevage, mais on peut ne pas avoir beaucoup de poterie. Vous voyez, en fait, il y a très peu de foyers de néolithisation à l'échelle du monde, à peine une dizaine. Et dans chaque région du monde, on évolue à sa manière. Il n'y a pas une voie de la néolithisation, il y a des voies différentes.
Et au moment où on invente l'agriculture, puis l'élevage, ça va permettre à la population humaine d'augmenter. Vous disiez peut-être que certains historiens se demandent si ce n'est pas parce que la population humaine avait déjà augmenté qu'on a inventé l'agriculture pour mieux la nourrir. Mais il peut sembler logique aussi que ce soit l'inverse. C'est parce qu'on a inventé l'agriculture et l'élevage que tout à coup, la population humaine s'est mise à grossir. Et au fond, c'est la première grande révolution démographique de l'histoire, le néolithique.
Tout à fait. On passe en gros 5 millions d'habitants, 80 à 100 millions d'habitants.
Sur toute la Terre.
En quelques milliers d'années, tout à fait. En partie parce que l'agriculture et l'élevage permettent de stocker des ressources. Parce qu'aussi ça permet, on a calculé que la durée entre deux naissances pour une femme chasseur-cueilleur était beaucoup plus longue que pour une femme sédentaire et
agricultrice. Il fallait qu'elle marche. Voilà, et donc, on ne pouvait pas faire d'enfant tant qu'il ne pouvait pas marcher par lui-même, parce qu'on était obligé de le porter. Après, on va faire autant d'enfants qu'on veut pour qu'ils puissent travailler au champ.
Oui, après, c'est aussi, la mentalité, on a peu d'informations, mais elle est sans doute très forte, puisqu'elle est très forte dans les périodes suivantes. Parce qu'on a beau inventer l'agriculture et l'élevage, pendant des milliers d'années ensuite, les populations paysannes du monde entier vivent difficilement. Toutes ces populations connaissent la soudure, le moment entre la récolte passée dont on a épuisé la réserve et la nouvelle récolte. Et les famines sont fréquentes. Mais néanmoins, on peut stocker évidemment davantage de ressources que ne le faisaient les chasseurs-cueilleurs.
Olivier Grenouillot, c'est pendant le néolithique qu'on va donc se sédentariser. On construit des maisons, des villages, puis des villes. C'est la naissance de la propriété privée. On fonde des familles, on prie des dieux, on a des prêtres, on a des chefs. On va bâtir les premiers temples, mais aussi les premières nécropoles. C'est une période qui est totalement passionnante.
Oui, tout se met en place. Tout se met en place, encore une fois, bien avant l'invention de l'écriture, qui est le moment, classique pour l'entrée dans l'histoire, mais à mon sens, on entre dans l'histoire avec le néolithique.
Vous dites aussi que c'est le moment où on commence à accumuler des objets de plus en plus variés, des objets du quotidien et des objets de prestige.
Tout à fait. Le chasseur-cueilleur, voyageait et ne pouvait pas emporter grand-chose. Dès lors que l'on se sédentarise, on peut stocker. Et on a quantité d'objets du quotidien pour faire cuire les aliments. On a trouvé en Écosse, il y a quelques années, qu'il y avait des récipients spécifiques, par exemple, pour la cuisine. On commençait à faire cuire les légumes dans un récipient. Puis là, à la fin, on mélangeait avec la viande qui avait cuit dans un autre récipient. Voilà. Alors, tout le monde n'avait pas la batterie cuisine développée, mais voilà. La gastronomie commence aussi à cette époque. Et puis, y a tous les instruments du quotidien pour travailler, pour se vêtir. Et puis, il y a aussi, des objets de prestige.
Il y a des riches.
Tout à fait.
Il y a des riches et il y a des pauvres.
Qui circulent sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Et donc, qui ont une très, très, très forte valeur.
Il y a de la concurrence, donc il y a des inégalités. Il y a des riches et des pauvres. Il y a les premiers esclaves. Il y a les premières guerres. Il y a des dominants et il y a des dominés. Pour reprendre des termes qu'on utilise aujourd'hui, qui n'avaient pas de sens.
Oui, alors, sur les premières guerres, il y a des débats. Est-ce que la guerre est inventée au néolithique ou est-ce qu'elle a commencé avant ? On a, bien avant le néolithique, au Kenya, une soixantaine de personnes qui ont été exterminées, hommes, femmes et enfants. Ça correspond à une zone, finalement, qui peut être convoitée, une zone près d'une rivière. Et on a d'autres exemples comme cela avant le néolithique. Donc, peut-on parler de guerre ou pas? Enfin, tout dépend de la manière dont on définit la guerre. Je le développe longuement dans le livre. Mais à mon sens, la violence, voire la violence guerrière, existe avant. Mais cela se renforce très nettement au néolithique, hein, période où apparaît aussi l'esclavage.
Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tellement au néolithique alors que pendant très longtemps on l'a boudé? Je rappelais, moi quand j'étais enfant, mon livre d'histoire passait directement des cavernes au village gaulois. On faisait l'impasse sur le néolithique. On a découvert tout à coup toutes sortes d'informations sur cette période?
Pas forcément, je dirais qu'on avait des informations, mais c'est vrai que... Parlons de la préhistoire en général. Agra de Lascaux a découvert en 1940. Et donc, le néolithique aussi, les recherches, elles ont beaucoup progressé depuis les années 60, 70 et 80. Et donc, on a plus d'informations. Et puis, comme je disais tout à l'heure, notre regard sur le progrès fait que l'on s'intéresse davantage à ces périodes, hein, en fonction de ce que l'on pense de ce progrès.
Merci Olivier Grenouillot. Votre nouvelle collection s'intitule « La bibliothèque a remonté le temps ». C'est paru aux éditions du Cerf. On vient de parler du néolithique, mais il y a aussi le livre consacré aux Vikings, celui au général de Gaulle. Et le quatrième, c'est ?
Les dieux de l'Égypte antique. Alors l'objectif, c'est que chacun puisse s'élever par le savoir. Et pour ça, il faut rendre ce savoir, je dirais, agréable. Ce sont de beaux livres qu'on peut toucher, feuilleter, papier glacé, et puis des livres surtout accessibles. Il faut que cette culture soit accessible. Et donc, on a des chapitres courts, rythmés, pas de lexique. C'est un élément symbolique, parce que quand on a un lexique, c'est qu'on considère que la lecture ne donne pas tout, hein, qu'il faut définir spécialement les termes dans un endroit précis. Il n'y a pas de lexique parce que tout doit être accessible au lecteur, quel qu'il soit.
Merci Olivier Grenouillot.
Merci.
Europe 1.
C'est arrivé demain, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain à 9h. Je vous souhaite une excellente semaine sur Europe 1.